Thomas Negaroff, l'historien, est avec nous ce matin. Il est notre invité. Je ne sais pas, peut-être une réaction à ce reportage de votre part. On est quand même, de la part de ces collectifs, dans une revendication qui peut être légitime, personne n'en doute, mais c'est quand même peut-être compliqué, non, de s'approprier comme ça les mots des autres, MOTS, et les mots MAUX aussi. Les histoires des deux pays sont différentes, les causes aussi, les polices, n'en parlons pas. On est entre la stratégie un peu de communication et la récupération d'un slogan pour vous.
Mais il y a souvent cette fascination, on en parlait tout à l'heure pour Hillary Clinton, mais cette fascination aussi pour les mouvements africains-américains. Il y a d'ailleurs des retours, parce que par exemple, au début des années 30, aux États-Unis, la structuration du mouvement noir américain s'est fait aussi par externalisation de la lutte, avec la question de l'Éthiopie, par exemple. Donc c'est pas que nous qui regardons eux avec fascination, il y a aussi les noirs américains qui ont aussi regardé ailleurs des luttes. Mais si, même si personnellement je suis un peu gêné, on vient d'entendre qu'il y avait comme s'il y avait uniquement un problème d'intensité, de différence entre la France et les États-Unis. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi une différence de nature fondamentale de l'histoire des Noirs français et des Noirs américains. Ce n'est pas qu'une question d'intensité. Il n'y a pas juste un peu moins de morts par la police en France et un peu plus aux États-Unis. Je crois qu'il y a des histoires quand même très différentes et je suis pas sûr que ça soit. Peut-être c'est le meilleur moyen pour qu'on en parle de la lutte des Noirs en France. Je suis pas sûr, en revanche, qu'en termes d'efficacité et même de justice historique, on soit dans quelque chose de très évident là.
De justice ou de justesse. En ligne avec nous, l'écrivain journaliste Jake Lamar. Bonjour.
Bonjour.
Merci de vous être réveillé de si beau matin pour être sur France Culture. Vous êtes né à New York, dans le Bronx. Vous êtes maintenant un Américain à Paris, auteur de Postérité et Nous avions un rêve. Vous venez d'entendre ce reportage d'une branche parisienne de Lives Matter, Black Lives Matter en France. Votre réaction, est-ce que les histoires, les parcours sont comparables ?
Pas vraiment, et en fait je suis d'accord avec ce que Thomas Snegaroff a dit. Quand on parle du racisme, la différence entre le racisme aux États-Unis et le racisme en France et en Europe en général, on doit parler de la différence entre l'esclavage et le colonialisme. Aux États-Unis, il y avait une grande présence des Noirs américains sur le sol américain depuis le 17e siècle, après l'esclavage qui était un système de caste. Il y avait 100 ans des efforts de perpétuer ce système avec du lynchage, le refus de droit de voter, la ségrégation. Et c'était toujours plus facile d'unifier les Noirs aux États-Unis parce que nous sommes tous considérés comme un peuple inférieur, le caste qui était créé avec l'esclavage. En France, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a plusieurs communautés de pays différents, de cultures différentes. Il n'y a pas une seule communauté noire en France. Il y avait des gens des origines africaines, des origines antillaises, des maghrébins. Et donc, on ne peut pas parler de même façon de la population noire.
Justement, Jack Lamar, retournons maintenant un peu aux États-Unis. L'élection d'Obama a été un symbole, hein, inespéré presque pour la cause des Afro-Américains. Mais alors qu'il s'apprête aujourd'hui à partir, à quitter la Maison-Blanche, son bilan en matière de lutte contre les inégalités sociales et raciales reste assez mince, comme l'ont prouvé les tensions très fortes des dernières semaines aux États-Unis. Barack Obama, avez-vous un jour écrit, c'est le Neil Armstrong de la politique américaine, une arrivée remarquée, l'un sur la Lune, l'autre à la Maison Blanche, mais assez peu de résultats concrets au final.
En fait, on ne peut pas sous-estimer le contre-coup envers la présidence de Barack Obama. Et depuis son premier jour dans la Maison-Blanche, il y avait au Congrès, parmi les républicains, une stratégie d'obstruction totale. À la Cour suprême, on a vu l'éviscération de Voting Rights Act, le projet de loi le plus important du mouvement pour les droits civiques. Et on peut dire que la violence qu'on a vue de la part des Blancs contre les Noirs dans les années récentes est liée avec la présidence de Barack Obama. Après le meurtre de Trayvon Martin, Barack Obama a dit « Si j'avais un fils, il ressemblerait à Trayvon ». Et on peut dire que peut-être George Zimmerman, quand il a tué Trayvon Martin, il a vu un jeune Barack Obama devant lui. Cette violence de la part de la police, c'est lié avec une hystérie qui est sentie par beaucoup d'Américains blancs qui étaient choqués par l'élection d'un président noir. Je pense que c'était un choc total pour une grande population de blancs aux États-Unis. Ça a renversé leur vision de leur pays. Et Barack Obama était forcé de négocier avec ce contre-coup féroce pendant toute sa présidence.
Jack Lamar, il y a eu un spot qui a été diffusé récemment par le parti démocrate aux États-Unis qui s'appelle Dear Donald, qui essayait de promouvoir une société multiculturelle en soulignant les défis que la société américaine doit encore tenter de relever, et le racisme est le premier d'entre eux, avec les inégalités économiques. Alléger, débarrasser de ce symbole, celui de Barack Obama, est-ce que vous pensez qu'Hillary Clinton peut, elle, faire mieux?
C'est possible, parce que je pense que Barack Obama, il a parlé toujours de la fièvre qui a commencé avec son élection. C'est possible que même malgré tous les obstacles qui seront devant Hillary Clinton en tant que la première femme présidente des États-Unis, je pense que cette obsession raciale peut-être ne sera pas là quand Barack Obama n'est plus dans la Maison Blanche. Et c'est possible que les républicains peut commencer à travailler avec un démocrate sans cette ombre de racisme.
Merci beaucoup, Jack Lamar, d'avoir été en ligne avec nous. Les atouts d'Hillary Clinton, mais aussi ses faiblesses, on en parle jusqu'à 8h dans les matins.
France Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
Hillary Clinton dans le texte, Thomas Snegaroff, historien et notre invité enseignant à Sciences Po Paris. Vous êtes l'auteur donc d'une géopolitique des États-Unis d'Amérique parue ce mois-ci au PUF, mais également de deux ouvrages sur le couple Clinton. L'un qui est paru au printemps chez Talendier, Hillary et Bill Clinton, l'obsession du pouvoir, époux, associés, partenaires, leur destin, nous racontez-vous, sont indissociables. Et puis un autre paru plus tôt, il y a 2 ans, Bill et Hillary Clinton, le mari de l'amour et du pouvoir. On voit que quelque chose a changé dans ce double titre. Il y a 2 ans, vous parliez de Bill et Hillary Clinton. Aujourd'hui, c'est Hillary qui a pris le pas, Hillary et Bill Clinton. Thomas Snegaroff, on va essayer de voir un peu avec vous ce que Hillary Clinton, qui interviendra ce soir dans la convention démocrate, va avoir à nous dire. Mais tout d'abord, vous faire réagir sur cette une de l'International New York Times ce matin. Une préoccupation: si Clinton gagne, écrit le quotidien, quelle est l'équivalent de la première dame, the first spouse, le premier époux, le premier homme, écrit le quotidien. Comment garder Bill à la bonne distance tout en s'appuyant sur son expérience? Sera-t-il ce shoot de testostérone, ça ce sont vos mots, concernant Donald Trump, nécessaire peut-être à Hillary, d'après vous?
Je sais pas, c'est vrai que c'est compliqué. J'étais il y a quelques jours dans l'Arkansas, donc l'état des Clinton. J'ai assisté à un discours de Bill et il y avait des stickers partout où il y avait écrit First Gentleman. Donc le premier homme, on ne sait pas comment l'appeler effectivement, premier époux, premier homme, c'est compliqué.
Oui, l'équivalent de la première dame aussi.
Voilà, il y a quelques temps, Hillary Clinton a expliqué qu'elle lui donnerait bien une fonction à la Maison Blanche qui serait celle de s'occuper des régions désindustrialisées en difficulté, celle auxquelles Donald Trump parle beaucoup. Très vite, on a dit c'est un scandale, on est en train de contourner le 22e amendement et d'offrir un troisième mandat sous couvert à Bill Clinton. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 92, Clinton avait été élu notamment en expliquant très souvent que en le mettant à la Maison Blanche, ils auraient 2 Clinton pour le prix d'un. Donc effectivement, on a le sentiment que les deux fonctionnent souvent ensemble, qu'il y a non pas de premier époux, de première dame ou de premier homme, mais plutôt une coprésidence. Et l'enjeu est de savoir effectivement à quelle distance mettre Bill Clinton. On a vu hier, avant-hier, dans son discours à la convention, qu'il est un atout formidable pour Hillary Clinton. D'abord parce que ses 8 ans à la Maison Blanche restent pour les Américains de bonnes années, notamment d'un point de vue économique et social. C'est des années où les inégalités sont réduites, ce qui est la seule époque depuis finalement l'ère Reagan, depuis le début des années 80. Donc c'est une époque où il y a une Amérique plutôt en sécurité, donc c'était plutôt des bonnes années, mais il faut un peu se déconnecter des années.
Il faut qu'elle s'affirme aussi
des années 90, oui,
elle-même comme personnalité.
Oui, parce que comme l'avait dit Marco Rubio à un moment donné, en reprenant un slogan de Clinton, de Bill, en 96, il veut construire un pont vers le 21e siècle. Il avait dit, oui, le problème, c'est qu'Hillary Clinton aurait du mauvais côté du pont, celui du 20e siècle.
Et donc, c'est tout l'enjeu, justement, pour Hillary Clinton de cette convention, s'affirmer, imposer sa personnalité en une du International New York Times, également une photo, celle de trois supportrices brandissant une pancarte avec inscrit « Girl Power ». Hillary Clinton, première présidente des États-Unis comme Barack Obama a été le premier président noir, un symbole, voilà ce que ce serait. Mais l'ironie et le problème pour elle, selon un autre quotidien, le Wall Street Journal ce matin, c'est qu'il n'est même pas sûr que tout ça lui profite. Pour l'instant, si les femmes soutiennent majoritairement Hillary Clinton, l'écart avec Donald Trump n'est pas vraiment décisif, 52% contre 37%. Le rapport de force est en revanche inversé chez les femmes blanches, de 35 à 65 ans, c'est le candidat républicain qui fait la course en tête. La popularité d'Hillary Clinton en débat en ce moment, les sondages l'a placée au coude à coude avec Donald Trump il y a encore une semaine. Puis il y a eu la convention républicaine et le candidat républicain surexposé pendant une semaine a même pris un peu d'avance. Lundi, il l'a devancé de 5 points, c'est ce qu'on appelle l'effet convention. Cette semaine, c'est elle qui est dans la lumière. Les Américains, dont 21% quand même disent la haïr, 68% la jugée malhonnête. Est-ce qu'ils ont, d'après vous, Thomas Snegaroff, appris à la connaître? Est-ce qu'ils vont apprendre à l'aimer, cette femme?
Ils la connaissent tellement bien, c'est peut-être aussi le problème. C'est qu'en général, une convention, ça sert à présenter aux Américains quelqu'un, Bill Clinton en 92 ou Barack Obama en 2008. Les conventions, elles servent d'abord à présenter le candidat, à sortir des débats de la primaire et à montrer un caractère humain. On essaye d'humaniser le candidat. Là, Hillary Clinton, on la connaît depuis 35, 40 ans dans l'Arkansas, une vingtaine d'années, même davantage, 25 ans aux États-Unis. On la connaît tellement que c'est difficile pour elle de réinventer quelque chose.
Ah bah c'est ce qu'elle va devoir aussi tenter de faire quand même ce soir, parce que la convention américaine touche à sa fin et à Philadelphie, elle va prononcer son discours d'investiture. Quels sont les mots pour vous qu'il lui faudra absolument trouver pour convaincre ?
Je crois qu'elle doit d'abord raconter, on a tout à l'heure parlé de storytelling, elle doit raconter une histoire. Et le problème d'Hillary Clinton, c'est que son histoire personnelle, c'est l'histoire d'une petite fille blanche d'une banlieue bourgeoise de Chicago, Park Ridge. On n'est pas dans une histoire fantastique comme les deux démocrates que je citais tout à l'heure, les deux derniers présidents démocrates, Bill Clinton, dont le père était mort avant la naissance, imaginez-vous, qui était né dans une ville qui s'appelle Hope. Espoir. Donc là, vous avez un storytelling qui est quand même formidable. Quant à Barack Obama, on n'a pas besoin de le rappeler, je crois, que son histoire imprimée sur sa peau est en soi une histoire extraordinaire. Elle doit raconter quelque chose. Elle doit connecter avec le peuple américain. Et surtout, sortir de l'idée que les Clinton se sentent au-dessus des lois, que les Clinton qu'on l'amène à la Maison Blanche comme dans une chaise à porteur. Elle doit raconter l'histoire aussi de quelqu'un qui a souffert, qui souffre pour les Américains, qui n'est pas que richissime. Et donc c'est difficile. Mais ce qu'elle doit surtout faire, c'est rassurer les Américains.
Est-ce donc qu'on trouver un ton plus optimiste que axé sur la peur, comme l'a fait Donald Trump durant toute cette campagne. Elle doit se démarquer de son opposant.
Ça c'est sûr. Elle doit dire aux Américains, vous avez peut-être la tentation de lâcher la proie pour l'ombre, mais la proie, c'est moi. Je suis peut-être pas super excitante, super attirante. Je ne porte pas forcément des grands espoirs pour votre avenir. Mais par rapport à l'ombre, je suis éminemment plus rassurante. Et c'est ce qu'on a vu depuis quelques jours. Les discours de Bill Clinton sur le côté humain. Le discours de Barack Obama, là, il y a quelques heures, qui a montré qu'elle était la personne la plus qualifiée pour être présidente. Tout ça a vocation, non pas forcément à faire aimer Hillary Clinton. Je crois que ça n'arrivera jamais, malheureusement pour elle. Mais en tout cas, à rassurer sur sa capacité à gouverner l'Amérique. Cette nuit, elle va tenter d'en faire un peu plus, d'apporter ce supplément d'âme, d'être peut-être un peu moins détestée. Mais je crois que déjà, si elle arrive à rassurer et à apparaître comme un miroir plutôt flatteur par rapport à Donald Trump, ça sera déjà une convention réussie.
On a avec nous en ligne Joseph Smallhoover. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Bonsoir, bonne nuit, parce qu'il est très tard chez vous et plutôt tôt chez nous. Vous êtes avocat, président du comité des Democrats Abroad France, c'est-à-dire un comité de soutien donc au Parti démocrate ici à Paris.
Non, pas du tout un parti de soutien, c'est une partie du Parti démocrate. intégralement.
Une branche du Parti démocrate ici, pas un comité.
C'est pas un parti, pas un petit comité de soutien. Nous sommes le Parti démocrate.
Vous êtes le Parti démocrate en France, ok. Et vous ne soutenez pas les Républicains, donc bien les démocrates. Vous êtes en ligne avec nous depuis Philadelphie, où se tient jusqu'à ce soir la convention démocrate en vue de la présidentielle américaine de novembre prochain. On entendait Thomas Snegaroff nous dire qu'il allait falloir, pour Hillary Clinton, réussir à s'imposer ce soir dans son discours d'investiture. Bernie Sanders, Michel puis Barack Obama, Bill Clinton, ils ont tous parlé pour elle jusqu'ici, cette semaine. Hillary Clinton, est-ce que vous avez le sentiment que pour l'instant, à Philadelphie, elle est comme présidente presque adoptée? Quel portrait a-t-on fait d'elle là-bas toute cette semaine?
Je pense que la convention est très claire, que le soutien est absolument massif avec le fait que le sénateur Sanders a donné son soutien inconditionnel à Hillary Clinton, le parti est unifié et va ce soir faire un discours qui marquera l'histoire des États-Unis.
Il y aura quoi dans ce discours?
C'est extrêmement important. Elle va parler plusieurs choses. Elle va d'abord parler d'elle et de ce qu'elle a toujours fait, parce que c'est quelqu'un qui lutte depuis déjà 40 ans pour un concept de justice sociale, notamment pour les familles de la classe moyenne et la classe ouvrière. Elle va aussi parler de son expérience au Sénat, son expérience en tant que secrétaire d'État, son expérience aussi, les milliers de kilomètres qu'elle a parcouru aux États-Unis et autour de la Terre pour rencontrer les gens, les chefs d'État de différents pays, et le fait qu'elle est préparée pour devenir le prochain président des États-Unis.
Donc pas d'appel a priori à la gauche des gauches pour séduire les électeurs de Bernie Sanders, c'est ce que vous nous dites?
La plateforme du parti était déjà votée en début de la semaine. La plateforme, et j'ai participé en tant que représentant de Democratic Board sur le comité qui a rédigé la plateforme, était quand même assez à gauche, mais elle a le soutien parfait de Hillary Clinton. Donc cet appel-là, les quelques illuminés qui refusent de respecter même les consignes de leur propre chef, Sénateur Sanders, c'est pas important.
Vous parlez de ceux qui ont hué Bernie Sanders quand il a apporté son soutien, c'est ça, officiellement à Hillary Clinton?
Il y avait 50 000 personnes dans le stade et une petite poignée de gens qui ont hué, donc non.
Sur une ligne centriste, hein, Hillary Clinton, vous nous le disiez, une ligne introduite d'ailleurs par Bill Clinton pendant qu'il était président et qui pratiquait à merveille l'art de la triangulation en reprenant une partie des idées du camp républicain pour se démarquer. Un accent rassembleur, vous nous dites, des paroles modérées et apaisantes, Joseph Smallhoover, dans une période troublée où les clivages sont quand même assez forts face à un candidat républicain qui sème les polémiques partout où il passe. Il ne serait pas temps pour vous de donner quand même vraiment de la voix et de se démarquer?
Elle est centriste, elle restera centriste. Ça ne changera pas, c'est sa politique et c'est la politique de la plupart des Américains d'ailleurs. Mais je pense que ce serait très facile de se démarquer. Aujourd'hui, hier, le candidat républicain a même appelé aux Russes d'espionner les États-Unis. Il les a invités à espionner les États-Unis. Ça peut être une sorte de trahison. Elle va marquer clairement son expérience et le fait qu'elle est la personne qu'il faut pour les États-Unis aujourd'hui, ce qu'elle a vu de son mari, du président Obama, du président Carter qui n'était pas là aujourd'hui mais qui est parlé l'autre jour, n'en parlons pas de toute la classe politique démocrate, donc nous sommes convaincus, elle marquera ça, et en plus, avec le soutien des femmes, des jeunes, des noirs, des asiatiques, des latinos, des gays. C'est très clair qu'elle marquera une vision de l'Amérique qui n'est pas une vision de Trump qui est quand même assez dystopique.
Merci beaucoup à Joseph Smallhoover d'avoir été avec nous du Parti démocrate américain en France. Merci d'avoir veillé tard pour nous accorder ces quelques minutes. Le mot de la fin avec vous, Thomas Snegaroff. À nouveau, balle au centre, aussi avec le colistier qu'elle s'est choisi, Tim Kaine, un homme plutôt centriste. Ils sont quand même assez complémentaires l'un et l'autre. Ensemble, ils vont devoir, et on va terminer là-dessus quand même, faire oublier cette affaire des emails révélée notamment par WikiLeaks qui a pollué la convention, parasité un peu ce moment. Hein.
Oui, ça va être un enjeu important. Vous avez dit 68% la considèrent comme malhonnête. Ça n'empêche pas d'être président, mais c'est quand même un vrai problème. Et puis, on a beaucoup dit, on vient de l'entendre, qu'il y a des soutiens extraordinaires, les anciens présidents, des sénateurs, des gouverneurs. En face, vous avez un homme seul, en tout cas qui a l'air seul, Donald Trump. Et c'est deux histoires différentes de l'Amérique. Et ça, c'est très intéressant. Est-ce que les Américains vont choisir quelqu'un qui est à ce point soutenu qu'on a l'impression qu'elle est portée avec les préjugés sur une femme qu'on amène comme ça à la Maison-Blanche, ou est-ce qu'on va privilégier un homme qui, en tout cas, raconte qu'il s'est fait tout seul et qui mène une campagne contre tout le monde? C'est pas gagné d'avance, cette idée d'avoir été autant soutenue peut aussi, au final, la desservir.
Bon, vous revenez demain pour nous aider à décrypter le discours qu'elle aura prononcé aujourd'hui à la Convention démocrate. On vous entend, on vous attend encore à 7h15 demain matin. Un grand merci à vous, Thomas Snegaroff.